frère, j'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le débat tourne autour du processus électoral. Comme vous le savez, la CENI a publié le 11 août dernier la liste provisoire des candidatures pour les législatives nationales. Plus de 24 000 candidats ont été retenus pour 500 sièges sur le 28 791 candidatures reçues par les bureaux de réception et de traitement des candidats. D'aucuns estiment qu'avec la publication de cette liste, il n'y a plus de raison de douter du processus électoral en cours et que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Une autre opinion continue cependant d'être sceptique quant à la tenue de ces scrutins. Mais alors, qu'en pensez-vous ? Vous êtes les bienvenus dans ce débat du jour qui bénéficie du concours technique à la réalisation de Marcel Ngombombala et Pierre Diassinois qui est à la mise en onde de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Vous pouvez participer à cette émission en composant bien entendu les 081 890 49 69 ou encore les 081 890 63 30. Et également, vous pouvez commenter ce sujet sur notre page Facebook. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Alain Bolodjo, vous êtes avec nous depuis Belgique. Bonjour Alain.
Bonjour Abou, bonjour Radio Capi.
Voilà, c'est un réel plaisir de vous avoir à nouveau dans cette émission. Parole aux auditeurs pour parler du processus électoral. Peut-on nous rassurer après la publication de la liste provisoire des candidats, députés nationaux, de la tenue effective des scrutins d'ici au 20 décembre prochain?
Bon, je pense que nous ne devons pas nous poser ce genre de questions. Parce que ce qui est vrai, la Constitution a fixé un calendrier, voyez-vous, parce que le mandat étant limité dans le temps, et naturellement, on doit avoir les élections. Mais la question que nous devons plutôt nous poser, est-ce que ces élections seront-elles une solution ou un problème? Parce que nous sommes résolus d'imposer les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Et c'est là dans le souci de mettre fin à la crise des légitimités. Que ce soit notre constitution, que ce soit la loi électorale, bien que révisée à plusieurs niveaux, mais nous savons que la finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise de légitimité et de ce fait, le problème de timing, non seulement s'impose, mais aussi ça nous oblige à nous, Congolais, d'exiger à ce que le respect du timing soit vécu. Mmh. Fort malheureusement, on se rend compte, aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de l'esprit de la Constitution en ce qui concerne le processus électoral. Nous constatons aujourd'hui que l'illégitimité se constate déjà au niveau du bureau de la CENI. Mmh. Et fort malheureusement, on ne veut pas en parler, alors qu'en réalité, pour résoudre le problème d'illégitimité au niveau de d'autres institutions, on doit se rassurer de la légitimité de ceux qui constituent le bureau de la CENI. Et fort malheureusement, on en parle de moins en moins.
Voilà. Vous êtes acteur politique et disons, autorité morale, ou si vous voulez, le président de l'EBAT. Lèvons-nous et bâtissons les Congos, je crois, c'est un parti jeune. Vous ne faites pas partie du processus, ça je peux l'affirmer, hein, parce que je n'ai pas vu votre parti sur la liste des candidatures reçues et même validées par la CENI de manière provisoire. Mais entre-temps, la question relative aux moyens financiers disponibles à la CENI pour exécuter en bonne et due forme le calendrier de ses activités continue à défrayer la chronique. Alors, quelle posture aviez-vous face à cette situation?
Bon, personnellement, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que ça fait partie des stratégies déjà boutiquées au niveau de la classe politique dirigeante, voyez-vous. Ils avaient plusieurs instruments à utiliser, la santé, la sécurité, ainsi que les finances. Il vous souviendra que le ministre en charge des finances avait démontré par 1 plus 1 égale 2 qu'il avait le moyen, n'est-ce pas, le moyen pour financer le processus électoral. Et fort malheureusement, on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, la contrainte financière continue. Or, nous savons que s'il y a, même s'il y a le financement, mais si le financement sont décaissés ou mis à la disposition de la CENI en retard, eh bien, toutes choses restant égales par ailleurs, ça va avoir une incidence sur le processus électoral en tant que tel. Parce que vous savez qu'il y a des opérations qui demandent à ce que le financement soit mis à la disposition de la CENI bien avant pour lui permettre, n'est-ce pas, d'acquérir un certain nombre de matériel, comme vous le savez, pour déployer les équipements. On a besoin des engins, on a besoin de groupes électrogènes, on a besoin de déployer les machines, ça demande de coûts, il faut déjà faire des réservations en termes d'avions, et tous ces éléments-là demandent à ce que la CENI soit financée bien avant. Il faut former les agents, il faut les déployer, et donc nous nous rendons compte que c'était un instrument utilisé justement pour retarder le processus électoral, et je ne serais pas surpris de voir les élections soit être mal organisées ou soit être repoussées compte tenu de la question financière.
Alors, il y a, avant de passer aux auditeurs qui nous ont rejoints, ils sont nombreux d'ailleurs à avoir commenté ces sujets sur notre page Facebook. La population a-t-elle raison, selon vous, Alain Bolodjoie, à ces jours, de se poser la question sur la tenue des élections, ou bien elle doit absolument l'exiger?
Bon, je pense que la Constitution l'exige déjà. Et la Constitution, c'est la volonté cristallisée de la population. Peut-être que la population peut faire pression, mais elle ne doit pas seulement faire pression par rapport à la durée ou au timing, par rapport au délai, mais surtout par rapport à la qualité. Parce que dans l'esprit de la plupart de nos concitoyens politiciens, ils pensent que les élections sont organisées par le pouvoir et les élections sont organisées pour les candidats. Non. Les élections sont tout d'abord organisées par le peuple et pour le peuple. Parce que toute la substance du processus électoral est tirée de l'article 5 de la Constitution.
Tout à fait.
On dit que c'est le peuple qui est souverain. Et ce peuple transfère son pouvoir d'agir aux personnes de son choix. Et c'est ce qui justifie même la charpente institutionnelle. Et donc, nous pensons que la population est astreinte de faire appliquer la Constitution, pas seulement pour le délai, mais aussi pour la qualité du processus électoral. Il vous souviendra que dans notre pays, nous avons connu plusieurs crises, des crises récurrentes dues essentiellement par la non-acceptation des animateurs des élections. Alors aujourd'hui, si il n'y a pas élection dans le délai constitutionnel, et naturellement, on tombe dans la plénitude de la crise de légitimité. Parce que déjà, il y a certaines personnes qui contestent jusqu'à aujourd'hui le pouvoir de M. Félicité. Alors, essayez de vous imaginer qu'il n'y a pas élection dans le délai et qu'il y a de frustrations au niveau de la population.
Ça risque de renforcer
tous
encore l'illégitimité.
Ouais. Les groupements politiques qui ont eu à déposer leur candidature, qui ont eu à effectuer des sacrifices pour déposer leur candidature avec les exigences qui en découlent, sans oublier que nous autres qui contestons la légitimité des institutions, eh bien, ça risque de créer beaucoup de frustration. Voilà. Et c'est la population qui doit trancher parce qu'elle reste souveraine, quelle que soit l'option que l'on pourra aller.
Voilà. Alain Bolodjoie, nous vous gardons en ligne et nous insistons en disant que vous intervenez depuis la Belgique où vous séjournez depuis quelques jours maintenant. Alors, les auditeurs, ils sont nombreux. Les autres viennent à peine de nous rejoindre. Ils peuvent aussi participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081-890-6330 ou encore les 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes là en ligne, Peter Mabuidi. Merci d'être venu. Bonjour, Peter.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les autres de la radio Capu.
Quel est votre commentaire par rapport à ces débats?
Merci, monsieur Gilles. Nous avons analysé le calendrier nous proposé par la CENI. Et juste là, le calendrier est en train d'être respecté par la CENI. Mais cependant, M. Juer, la CENI, avant même de nous faire prendre son calendrier, elle avait évoqué certaines contraintes qui devaient compromettre la tenue des élections en décembre. Parmi les contraintes évoquées à son temps par la CENI, figurait la contrainte sécuritaire, qui, jusqu'aujourd'hui, une partie de notre pays et sous la gestion, occupation, pas pour la gestion, mais occupation des forces étrangères des M23, et également aussi des armées étrangères qui sont venues en appui. Et face à des situations exceptionnelles, M. JR, moi j'aurais émis le vœu que on puisse trouver également des solutions exceptionnelles par rapport à la situation. Pourquoi nous organisons les élections? Non seulement, comme l'invité l'a dit, pour avoir un pouvoir légitime, mais également aussi les dirigeants qui pourront répondre aux besoins de la population. Mais parmi les besoins prioritaires de la population, la sécurité, il fait partie.
Alors Peter, allons droit au but. Après la publication de la liste provisoire, peut-on nous rassurer qu'il y aura la tenue des élections ou la tenue des scrutins à la date échue?
Oui, mais pour le pouvoir, oui, mais pour l'opposition, non, parce que mes élus, tant qu'il n'y a pas...
Mais qui organise les élections? Est-ce le pouvoir ou l'opposition?
Non, mais c'est la CENI qui organise les élections, mais financée par le pouvoir. Mais le pouvoir qui tient à la tenue des élections, quand même il y a encore des problèmes sur le terrain, le problème nécessairement sécuritaire, où une partie du pays ne va pas se représenter, le président est élu par l'ensemble de la population.
Est-ce que vous vous rappelez de la sortie médiatique de Denis Kadima sur TV5 lorsqu'il avait annoncé, il a reconnu d'ailleurs des contraintes sécuritaires que vous venez d'évoquer, mais en donnant quelques options, en disant qu'il y a toujours possibilité, on peut garder ses postes jusqu'à ce que la sécurité sera rétablie pour que les amis puissent organiser les élections dans cette partie du pays. Mais entre-temps, on ne peut pas arrêter le processus, il faut qu'on avance.
Mais s'il arrivait que le pouvoir qui viendra après l'élection ne parvenait pas à trouver solution à la question sécuritaire, quelle sera la situation de ces occupations, de cette partie du pays qui est sous occupation? C'est ça le problème. On est là pour trouver solution au problème.
Alors, vous voulez quoi, vous, personnellement, à Peter Mabidi, vous voulez qu'on organise les élections ou bien qu'on les reporte?
Non, moi, selon moi, je pense qu'on devrait d'abord résoudre le problème des citoyens congolais.
Donc, qu'on arrête tout?
Absolument, le pouvoir est là pour trouver d'abord solution au problème.
Merci, merci beaucoup Peter. Merci beaucoup Peter. Pour vous, qu'on arrête tout, qu'on règle d'abord la question sécuritaire, et puis ça peut nous permettre d'avancer. Maître Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Gérard, bonjour à l'invité Alain Boulogne, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. Monsieur Gérard, à ce niveau de débat, nous pouvons dire que le fait que la liste des candidats retenus pour les législatives nationales soit publiée, c'est déjà un indicateur positif qui démontre la volonté de la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. De ce côté, nous jetons quand même de fleurs à l'équipe de Denis Kadima, qui jusque-là est en train de tenir sa parole. Et nous leur accordons les bénéfices, sinon la présomption de nous organiser des élections dignes des fois qu'on n'a jamais connues dans notre pays. C'est une présomption, M. Chien. Par rapport maintenant au fait de dire qu'il y a un cas de l'opposition ou de la majorité qui ne veut pas que les élections se tiennent ou qui est en train de débander qu'il y ait le fichier, donc l'audit du fichier électoral, nous disons, M. Gier, que tout se fait dans un timing. Donc, il y a la Constitution qui a déjà tracé le timing en dehors lequel tout doit se passer. Si aujourd'hui, nous accordons avec cette branche de l'opposition qui veut qu'il y ait l'audit, cela pourra faire que nous ayons le glissement. Et en ayant le glissement, M. Gier, avec tout ce que nous enregistrons déjà au pays comme de foyers de tension, les dirigeants actuels vont tomber dans l'illégitimité, comme l'a dit l'invité. Et quand ils tombent dans l'illégitimité, les tensions vont encore monter d'un cran. Alors, il faut choisir le moindre mal. Choisir le moindre mal, c'est que le cas là, s'ils s'abstiennent aujourd'hui de prendre part au processus électoral, moi j'aurais bien voulu que ce cas entre déjà dans le processus électoral et pose maintenant des problèmes tout en étant déjà dans le processus électoral. Parce que la politique des chaises vues de M. Gier, c'est permettez-moi de faire laisser avoir la caravane passe. Donc vous abstenez pendant que le processus est déjà en train d'évoluer et aujourd'hui on est à 3 mois et demi des élections. Nous ne voyons pas que certains préalables que pose l'opposition peuvent être résolus. D'où il faut nous accorder
Alors, Maître Alidor, parce que nous avons le devoir aussi d'éclairer l'opinion, d'éclairer la lanterne des uns et des autres, faisons une réflexion simple. Nous sommes à la sortie de ce régime 1+4. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il organisé des élections en 2006?
Non, il a eu à organiser les élections en 2006, monsieur Gérard, parce que le 1 plus 4 ne venait pas de la population, ce n'était pas les élus du peuple, c'était un gouvernement
Donc il cherchait la légitimité.
Oui,
il cherchait sa légitimité. En 2011, il a également organisé l'élection. Qu'est-ce qu'il cherchait encore?
Alors,
il cherchait d'avoir un deuxième mandat.
Oui, il a organisé les élections en 2011 pour se conformer à la Constitution, monsieur Gérard, et être respectueux des textes. Parce que qui dit démocratie, qui dit état de droit, dit respect des textes. Ne pas organiser les élections, c'est en quelque sorte ne pas être redevable à la population.
Alors vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, à comparer avec le régime de Kabila, a intérêt aussi d'organiser les élections au 20 décembre 2023 pour consolider... Et sa légitimité.
Absolument, monsieur Gér. Consolider sa légitimité et aussi consolider l'état des droits et l'état démocratique. Donc, quoi qu'il en soit, monsieur Gér, il y a d'autres préalables, oui, mais le moindre mal, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect de l'état des droits. Et pour ce faire, il n'a pas d'autre alternative que d'organiser les élections, monsieur Gér. Que le meilleur l'emporte.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter Mabidi. Alors, on revient à vous, Alain Bolodjoua, le temps qu'on puisse accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. En tout cas, vous êtes nombreux. On va pas vous prendre tous, mais on va quand même accorder aux uns aux autres et certains, on va lire leurs messages. Alain Bolodjoua, vous venez de suivre Peter ainsi que Alidor. Mais la grande question qui se ressort là, c'est la position de l'opposition. L'opposition qui continue, de sa part, de réclamer l'audit du fichier électoral et le consensus dans les processus. Est-ce inattendu? Attitude responsable, c'est là, tient-elle la route?
Bon, moi je pense, tout en saluant le point de vue de nos concitoyens, je pense que nous risquons de nous poser de mauvaises questions. Pas vous, mais la République. Mmh. Voyez-vous? Pourquoi sommes-nous allés à Sun City? Parce que nous avons voulu résoudre un problème. Et nous sommes résolus d'imposer les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Et dans ces processus électoraux, nous recherchons deux éléments essentiels. La première de choses, que le pouvoir émane du peuple, c'est ce que nous appelons la légitimité. Mmh. Et deuxièmement, cette légitimité doit être conforme à la Constitution et aux lois de la République. C'était ça. Nous cherchons à avoir une légitimité rationnelle, telle que le développe Max Weber. Dans cette légitimité rationnelle, il faut que la loi soit conforme à la Constitution et il faut que le processus électoral soit conforme à la loi. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, dans la classe politique, aucune frange de l'opposition se reconnaît avoir envoyé le membre de la CENI? Parce que la loi dit qu'il faut que 4 personnes émanent de l'opposition. Mmh. L'opposition ne se reconnaît pas dans le membre de la CENI. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Et là, ça pose le vrai problème, parce que le fait seulement qu'il y a contestation du bureau de la CENI, on ne peut pas reconnaître les résultats de la CENI. Là où je trouve un peu ambivalente l'opposition de certains opposants, ils ont constaté qu'effectivement, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI n'a pas été respecté, mais ils veulent quand même y aller. Ça, ça pose problème, ça crée de la frustration. Aujourd'hui,
oui, si parce vous que nous avons vu sur la liste Ensemble, En Vol et tant d'autres, ils ont rejoint le processus.
Non, mais ils ont rejoint le processus. Vous les considérez comme des opposants. Ensemble, c'est à peine qu'ils viennent de nous rejoindre dans l'opposition. Ils viennent de nous rejoindre dans l'opposition. Mais dites-nous, pendant qu'on constituait le bureau de la CENI, quels étaient les partis de l'opposition? Est-ce que ces partis-là ont vraiment officiellement, de manière formelle, mandaté le membre de la CENI? Parce que si le membre de la CENI sont illégitimes, ne pensez pas qu'on va atteindre les objectifs constitutionnels des élections. Aujourd'hui, nous constatons que le calendrier n'est pas respecté, contrairement à ce que M. Alidor a dit. Mmh. Le calendrier n'est pas respecté. D'autant plus qu'on avait prévu l'enrôlement et l'identification des électeurs dans Kwamutu, dans Rutshuru et Masisi. Mmh. Cela n'a pas été fait. Ça dit que le calendrier n'est pas respecté.
Pour des raisons sécuritaires, Alain Bolodjoua.
Non, mais pour des raisons sécuritaires. Si nous juxtaposons ce qui est dit, aujourd'hui, ces zones-là sont occupées par EAC, qui est une organisation sous-régionale, qui doit en réalité travailler avec l'État. Mmh. On suppose que là, la EAC pouvait autoriser, n'est-ce pas, l'enrôlement des électeurs parce que ça fait partie de droits souverains. Mmh. Soit on nous ment par rapport à la question sécuritaire, ou soit on n'en veut pas. Mmh. À Kouamoutou, on nous dit que l'État a déjà récupéré l'espace, garde son influence. Mais pourquoi nos concitoyens ne sont-ils pas enrôlés? Mmh. Et il a posé un vrai problème. Si ces gens-là ne sont pas enrôlés, comme l'avait dit d'ailleurs Peter, mmh. si ces gens-là, nos concitoyens ne sont pas enrôlés, il et va... qu'ils contestaient le pouvoir, parce mmh. qu'ils n'ont, ils vont pas par, ils vont, ils ne feront pas partie du processus. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement ne joue pas franc jeu. La question financière, ce n'est pas l'opposition qui impose au gouvernement de ne pas payer. Mmh. Alors qu'on nous a dit qu'on a dépassé les assignations l'année passée. On nous a garanti qu'il y avait
des... On aurait atteint quand même un budget de 10 milliards. De 10 milliards, au-delà des 10 milliards.
Ah voilà. Aujourd'hui, on nous dit que la CENI n'a pas de financement.
On a organisé la francophonie avec 70 millions.
Non mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit, apparemment le gouvernement est en train de souffler le chaud et le froid. Et nous devons être très prudents. La question que vous avez posée, est-ce que M. Félix peut-il avoir, quelle est la raison qu'il peut organiser les élections? Mais en dehors de la contrainte, M. Félix n'a aucune raison d'organiser les élections. Son seul souci, c'est de rester là. Voyez-vous? C'est parce que c'est une contrainte, il est astreint d'organiser les élections. Mmh. Mais ces élections-là n'ont pas pour finalité de constater la publication des résultats. C'est pour mettre fin à la crise de légitimité. Parce que tel que nous sommes là, les institutions en place sont illégitimes. Par le fait que les élections de 2018 n'ont pas répondu aux exigences de la loi. Monsieur Félix Tshisekedi, lors du congrès de 2019, l'a dit devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, qu'il y a des choses qui ont heurté la conscience collective. Donc, nous sommes là en face de vrais problèmes. Nous pensons que la meilleure des choses à faire, c'est de garantir de bonnes élections. De bonnes élections veut dire des élections transparentes. Et d'ailleurs, si vous lisez l'exposé de motifs de la loi, de la loi électorale, telle que révisée à ces jours, ça vous dit clairement que parmi les objectifs de la révision de la loi, c'est de faire en sorte que nous puissions résoudre de plus en plus le problème constaté dans le processus électoral. Mmh. Or, au moment où nous parlons, il y a un problème dans la désignation de membres de la CENI. Mmh. Il y a un problème dans l'indépendance de la CENI vis-à-vis du pouvoir central. Nous constatons que le pouvoir est en train de manipuler à souhait la CENI. En faisant des restrictions en termes de financement, en posant des problèmes de sécurité, alors que le problème devait en réalité être résolu. Qui peut nous garantir aujourd'hui que l'État congolais n'est pas en mesure de faire enrôler les gens dans les territoires dans Maïnombe, dans les territoires de... Bon, j'ai oublié. Dans ces territoires-là, à problème. Mmh, mmh. C'est justement parce que... À Kouamoutou, voilà. C'est justement parce que le gouvernement veut utiliser ça comme prétexte. Parce que si vous regardez le tableau de bord de la CENI, vous juxtaposez avec le tableau de bord du gouvernement, apparemment le gouvernement ne veut pas avoir les élections en 2023. Or, s'il n'y a pas élection en 2023, eh bien M. Félix Tshisekedi et les autres institutions seront frappés de double illégitimité. Parce qu'ils n'ont pas déjà été élus, et là, ils risquent de se maintenir au pouvoir en violation de la volonté de la population.
Voilà. Alors,
vous prenez la problématique de la publication des listes.
Oui.
Là, je pense que ceux qui nous suivent vont probablement comprendre. Ce qui est surprenant, ils ont fait la révision de la loi électorale. Mmh. Voyez-vous, l'article 22 dit ceci. Une liste est présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrécevable lorsque 1. Elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles. Ça, c'est la première des conditions. 2. Elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour chaque circonscription. 3. Elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau. Voyez-vous? C'est-à-dire que là, nous comprenons que la plupart des partis politiques n'ont même pas pris le soin de lire le conditionnalité pour aller compétir dans le processus électoral. Il y a de ceux qui n'ont pas tenu compte de seuil de recevabilité. Parce que dans cet article, il y a une modification qui a été faite. Sont également irrécevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% de sièges à compétition. Mmh. Cette disposition s'applique aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes. C'est-à-dire que pour qu'une liste soit recevable, il faut que l'on atteigne au moins 60%. S'il y a 484 sièges à pourvoir, il faut avoir 60% de ces nombres-là. Cela n'a pas été fait. Et ce qui fait qu'on a rejeté un certain nombre de listes. Vous prenez, en termes de l'inéligibilité de personnes, il y a de ceux qui sont mandataires publics, qui n'ont pas déposé leur démission ou leur mise en disponibilité au regard des dispositions pertinentes de l'article 10 de la loi. Ils ont été soumis. Vous prenez le nombre de candidats ne doit pas être supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Tous ces éléments-là devaient être compris par la classe politique. Ce qui veut dire quoi? Non seulement que le gouvernement ne veut pas organiser les élections, même la plupart des partis politiques n'ont pas été prêts, ne se sont pas préparés en conséquence pour que nous arrivions effectivement à avoir de bonnes élections.
On peut le dire sans avoir peur d'être contredit et que certains partis politiques, ils ont été pris par leur propre piège, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude parce que la loi était claire, il faut un nombre, au moins 60% des candidats pour la nationale pour avoir des candidatures reçues. Et aussi au niveau de l'éligibilité, comme vous l'avez dit, des listes et des noms, pas dans plusieurs partis politiques. Donc là, il y a certains partis politiques qui n'ont pas pu lire comme il fallait les textes.
Non, mais effectivement, justement, pour démontrer qu'il y a une préparation.
Voilà.
Mais c'est qui est surpris.
Voilà. Alors, je reviens à vous. Je reviens à vous. Le temps d'écouter Maître Patrick Odia. Maître Patrick, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec lui. Bonjour,
Oui, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue. Mais en disant là, avec ce débat, quelle est votre position, Maître Patrick?
Bonjour à la radio Capi, bonjour à l'invité et surtout bon retour également à cette émission.
Merci beaucoup, merci.
Merci beaucoup. Vous savez, les élections, il s'agit d'une question pertinente de l'État qui prouve à suffisance par la seule voie également que le peuple congolais peut agir également. Mais à la lieu où vont les choses également, il y a lieu de reconnaître qu'il y a des défis à relever. Il y a des défis qui ne cadrent même pas avec l'aspect politique, mais qui cadrent avec plus l'aspect sécuritaire d'abord. Que ça soit de l'opposition, que ça soit de la majorité ou de l'Union sacrée, nous tous, nous sommes d'accord que nous sommes insécurisés et une insécurité grandissante. Ça, c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi, c'est le défi, j'allais dire, juridictionnel ou le défi parlementaire. Il y a des lois qui ont été votées, la loi électorale, la répartition des sièges, jusqu'à maintenant également, cette loi n'a pas été votée. Et même la loi électorale n'a pas connu le consensus possible également. Autour de toutes ces questions et tous de ces défis également, j'estime qu'il n'est pas bien, il n'est pas conseillé d'aller aux élections si vite, alors que les élections seront déclarées chaotiques à la fin. Il faut y reporter les élections.
Donc on peut considérer vos allégations comme juste un conseil. Mais au regard des faits posés par la CENI, pensez-vous que les élections seront tenues à date échue?
Je ne vois pas les élections être tenues dans le respect des délais constitutionnels, notamment pour des défis sécuritaires. Comment, lorsque vous parlez de l'insécurité, alors qu'à l'Est, dans mon pays, les gens ne se sont pas encore fait enrôler? Comment parlez-vous des élections dans les délais, alors qu'ici, à Kouamouf, il y a des tueries? Voyez-vous que ces éléments touchent même au salut du peuple? On parle du salut du peuple, c'est la loi sacrée. Et lorsque cette population, ce peuple n'est pas sécurisé, on les tue chaque jour. Comment voudriez-vous qu'on vote alors que nos compatriotes sont de l'autre côté en train de souffrir, en train de perdre de vie? Eh bien, si ce défi sécuritaire est relevé, il y a également les défis financiers. Jusqu'à preuve du contraire, entre le président de la CENI et le ministre des Finances, il y a un jeu de ping-pong. On vous dit non, nous avons déjà décaissé. Les autres disent non, nous n'avons pas réussi. Mais finalement, ça demande des élections. Au-delà de ça, il y a un défi technique. Je vous dis, sur le plan les recoins, la CENI n'est pas en mesure de pouvoir
implanter ou amener les kits électoraux pour permettre à ce que les délais constitutionnels soient respectés. Moi, j'estime qu'au-delà de ces défis également, l'auditeur, j'allais dire, l'invité...
Mais Patrick, quand on sait que la Constitution, c'est un contrat social, le fait qu'il soit ainsi, la population a-t-elle le devoir d'exiger la tenue des élections au 20 décembre pour nous éviter ce genre de dialogue qu'on attend réclamer pour le troisième mandat qui est réclamé par exemple Joseph Kabila, ancien président?
Lorsqu'on parle du salut du peuple et des élections qui profitent aux politiques, aux intérêts égoïstes, qu'est-ce que nous devons prioriser? Je pense que le même peuple qui est appelé à voter, à élire, mais n'est pas sécurisé. Comment voudrez-vous organiser les élections? Nous sommes d'accord que les délais doivent être respectés, mais il y a une urgence ici sécuritaire. Ce sont les populations qui sont censées voter élus, les chefs. Alors, ils ne sont
donc,
pas...
Donc, en d'autres termes, c'est le régime qui tire dividende ou tire bénéfice de cette insécurité et qui persiste. Parce que la population ne va pas réclamer, les pouvoirs ne veulent pas sécuriser aussi la population. Finalement, on va rester éternellement au pouvoir et la population va regarder.
Eh oui, et ils seront payés et la population est en train de subir. Donc nous exigeons que l'insécurité cesse d'abord pour qu'on parle des élections.
Mais qui est censé mettre fin à l'insécurité?
Mais c'est l'État, c'est parmi les missions régaliennes de
selon,
l'État.
Selon vos propos, l'État n'en veut pas en finir. Parce que ça,
oui, l'État ne veut pas en finir parce que sachant que nous allons relever ces défis sécuritaires pour la tenue transparente et crédible des élections, et ça profiterait aux gouvernants parce qu'ils seront payés, ils vont profiter de l'argent pendant qu'on est en train de mettre en place la sécurité du pays, et ils seront toujours au pouvoir. Nous voulons que l'État congolais puisse accélérer la sécurité de l'État et pour qu'on puisse parler des élections transparentes. Nous voulons les élections, mais nous voulons également
merci
la totalité de la vie du peuple.
Merci beaucoup Patrick Odia. Alors, Alain Bolodjoua, réaction.
Bon, je crois que nous sommes dans le même angle d'idée que le concitoyen Odia. Je pense que, bien que je ne suis pas totalement d'accord sur sa conclusion, voyez-vous, ce qui est vrai, on ne doit pas seulement reporter les élections, on doit sanctionner tous ceux qui ont participé dans la non-tenue de ces élections. Parce que si nous voulons que les choses changent, on doit apprendre aussi à sanctionner. Ça serait maladroit de notre part de continuer à nous lamenter sur des choses qui sont déjà
acquises. Oui, mais qui doit sanctionner? Est-ce la communauté internationale ou
non, à l'intérieur? Le souverain. C'est le souverain qui doit sanctionner. Voyez-vous? Parce que si nous décidons aujourd'hui de nous retrouver quelque part pour qu'il y ait dialogue, que ce soit ceux qui se sont comportés en délinquants, en refusant d'organiser de bonnes élections, que ce soit ceux qui veulent aller à tout prix à des élections chaotiques, que
ce
soit la population qui attend des solutions à ces problèmes, naturellement, on risque de donner un chèque en blanc à tous ceux qui ont violé la Constitution. La Constitution voulait assez que nous organisions de bonnes élections. Ce qui est vrai. On a commencé à poser le problème de financement depuis la présentation de la feuille de route de la CNI. La CNI a présenté une feuille de route et le gouvernement nous a rassurés qu'il avait effectivement le moyen. Le problème d'insécurité s'est posé, oui, mais pas avec acuité tel qu'aujourd'hui. Lorsque nous disions déjà à M. Félix Tshisekedi qu'il voulait utiliser la question sécuritaire comme prétexte, il vous souviendra même, le président rwandais l'a dit. Il y a d'autres personnalités qui l'ont dit. Parce que nous savions que M. Félix avait l'intention de justifier la non-tenue des élections par rapport à cette réalité. Ce qui est surprenant, l'état de siège est suspensif de certains droits citoyens. Voyez-vous? Alors comment voulez-vous que nous allions aux élections dans une situation d'état de siège où nous savons qu'il y a des réductions? On a réduit sensiblement certains droits citoyens. Il sera difficile aux candidats de bien battre les campagnes. Parce que le texte déclarant l'état de siège restreint certaines libertés. Alors, comment voulez-vous que dans de telles conditions qu'on nous parle des élections? Et ce qui est encore très grave, tel que nous sommes là, la CNI sait pertinemment bien que son calendrier n'est pas respecté. Mais la CNI continue à faire le forcing, justement parce que la CNI, au lieu de se comporter en une institution technique, la CNI se comporte plutôt en une institution éminemment politique. C'est-à-dire que la CNI apparaît comme un bras séculier de ceux qui sont au pouvoir. Or, la CENI est supposée être indépendante. Il suffit seulement de voir toutes les démarches menées par la CENI. Jamais la CENI n'a pu convoquer l'opposition qui a mandaté le 4 membres de la CENI. Mmh. Alors que la loi voudrait assez que l'opposition soit représentée avec 4 postes. On trouve qu'il y a des problèmes. La question de la confirmation des résultats avec la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est contestée et contestable. Allez voir, le mandat de certains juges
Allez Bolodjoie, je vous coupe pas la parole. Jusqu'à quand continuerons-nous à vivre une telle, de tels spectacles odieux? Parce que finalement, l'histoire se répète. À l'époque, avec Kalamba comme vice-président de la CENI, l'IDPS ne s'est pas retrouvé là-bas en disant que on l'avait pas mandaté. Jolie qui est allé au nom du MLC et après l'opposition. Commençait à dire ben voilà, il s'est retrouvé pas, c'est pas lui. Aujourd'hui, il y a Toto qui est là-bas, il y a Mouindo qui est pour le compte de l'ensemble. Ben l'opposition, il dit ben voilà, on se retrouve pas. Ben jusqu'à quand continuera à vivre ces spectacles, un cycle de ces spectacles?
Non. Le problème, c'est que Ensemble à l'époque faisait partie du pouvoir. Voyez-vous, c'est dans le quota du pouvoir parce que le pouvoir avait droit à 6. Ensemble s'est retrouvé au pouvoir, naturellement, Ensemble n'a pas le droit de revendiquer. Mmh. Mais en ce qui concerne l'opposition, regardez, en 2017, l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire que l'IDPES, qui était majoritaire par rapport à la composition de l'opposition, l'IDPES, le groupe parlementaire, reconnaissait avoir mandaté des gens au niveau de la CENI. Alors, allez poser la question au groupe parlementaire de l'opposition actuelle. Aucun groupe parlementaire ne reconnaît avoir envoyé des gens là-bas. C'est ça le problème. Nous pensons que nous devons prendre à bras le corps la grande question, parce que il suffit pas seulement de se contenter de voir ce qu'il y a. Il faut aussi aller au-delà. Allez voir la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Constitution reconnaît que les juges ont des mandats de 9 ans, pas plus, et non renouvelables. Depuis que nous avons installé la Cour constitutionnelle, il y a de ces juges qui ont fait plus de 9 ans. Alors, comment voulons-nous continuer à vivre dans l'illégalité et dans l'illégitimité?
Voilà. Alors,
je pense qu'il est temps pour le peuple de se prendre en charge et de faire en sorte d'orienter de politique. Parce que à force de cautionner la violation intempestive de nos lois et de constitution, ça nous fait dérailler.
Alors, Alain Bolodjo, on va revenir à vous pour parler un peu de cette pression internationale. D'aucuns évoquent déjà cette pression qui va dans le sens de pouvoir amener les gens au dialogue. On va revenir à vous, le temps d'écouter des auditeurs, et puis on reviendra à vous. Hein. On va vous rappeler dans deux minutes. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour Blaise.
Oui, bonjour, la Radio Capi.
Voilà, Blaise, vous avez la parole. Quel est votre commentaire par rapport à la liste publiée par la CENI, où on retrouve certains partis politiques dont les candidatures ont été acceptées, d'autres par contre non. Alors, aujourd'hui, vous pensez que finalement, nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections, la tenue des élections en décembre?
Oui, monsieur Pierrot, je pense bien. Les Congolais doivent être trop prudents de la position de certains membres de l'opposition.
Oui, ici, il ne s'agit pas de membres de l'opposition, il s'agit de la publication de la liste. Est-ce que vous, en regardant le respect des calendriers de la CENI, des activités de la CENI, cela va nous amener directement aux élections?
Je doute fort de la manière que la CENI n'a pas respecté certaines clauses des lois électorales, puisque si vous parcourez bien les listes que la CENI a provisoirement validées, et on attend la Cour constitutionnelle pour valider, vous verrez que il y a certaines candidats qui ont récupéré les membres de la famille. Vous verrez non des papas comme titulaires, les suppléants, son fils. Le premier suppléant, le fils, le deuxième suppléant, le fils, vraiment, c'est trop regrettable. Donc, la CENI n'a pas respecté tellement la clause de la loi électorale. Vraiment, à ce niveau-là, nous regrettons. Et nous ne connaissons pas
Est-ce que vous avez lu l'intégralité de cette liste? Vous avez vu certains membres qui ont placé leurs membres de famille? Vous pouvez en citer un ou deux. Excusez-moi de vous le dire, c'est un secret quand même. Mais est-ce que vous avez lu? Vous avez découvert effectivement dans cette liste, il y a des gens qui ont posté leur famille?
Oui. Oui, mais pour l'intimité, nous ne voudrions pas balancer ça.
Mais vous savez que la loi, mais cela n'a pas été écarté au niveau de la loi.
Je pense bien même que non, au niveau de l'Assemblée nationale, ce point a été débattu à maintes reprises, puisque certains parlementaires voudraient même pas que les membres de la famille puissent y revenir. Donc, il aurait fallu que les candidats, lorsqu'il est pris dans un parti politique, il aurait fallu maintenant que le parti politique puisse désigner les suppléants. Mais nous ne comprenons pas que non, il y a certains membres de la famille qui sont revenus. Et pour moi, je ne pense pas que non, il aurait fallu donner la chance à ces gens-là.
Merci beaucoup Blaise Saïdi d'avoir appelé de Kisangani. Alors nous découvrons quelques messages de auditeurs avant de encore la parole à Lebolojo et à Franck de Vienne. Il y a Kalo Kalongi qui nous a écrit depuis Mbujimayi. Nous l'avions déjà dit plusieurs fois, vu les signes déjà présentés par la CENI que les élections auront lieu bel et bien lieu, commençant par la révision du fichier électoral et la dernière opération de la publication de la liste retenue. Malgré tout cela, la classe politique se divise toujours et certaines personnes continuent à rêver. C'est le cas d'une frange de l'opposition et ne peut pas nous inquiéter. C'est du copier-coller qui ne donne rien comme résultat escompté depuis les autres régimes. Fred Kalolo, bonjour Radio Capi, je suis Frédéric Kalolo. Je vous écris à partir de Matadi dans le Congo central. Les opposants doivent arrêter de distraire la population avec leurs jeux de tous les temps. Nous savons qu'ils sont habitués aux dialogues qui aboutissent au partage du gâteau en foulant aux pieds les intérêts de la population. Ou hier ou par, nous écrit depuis Mahagi, et nous demandons aux autorités de l'État de garder la sécurité de la population afin qu'il y ait une élection crédible. Sylvain Inji, je pense que les questions des élections sont des questions sensibles qui touchent les poumons de la vie nationale. La CENI doit jouer son rôle en bon père de famille pour pacifier le pays. Enfin, José Mwana Mundondo, depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur, à mon avis, la CENI de Kadima est juge et partie. À la fois, les élections auront lieu, mais l'histoire va revenir comme en 2006, 2011, 2018, parce que nous connaissons la manière dont Kadima a été placé à ces niveaux. 081-890-6330, ou encore les 081-890-4969 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons cette émission avec vous, Alain Bolodjoa. Je crois que vous êtes avec nous en ligne après avoir écouté cette longue série des auditeurs et même des réactions des uns des autres à travers de leurs messages qui nous ont été postés. C'est vrai qu'il y a des doutes, mais comme qu'il les dirait, avec une réflexion très 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 simple, pourquoi les régimes passés a organisé les élections en 2006, 2011, 2018, et Alain Bolodjoa est revenu sur cet aspect des choses en insistant beaucoup plus sur la légitimité. Et cette question de la légitimité, et les gouvernants actuels ont intérêt à pouvoir organiser les élections à la date juste pour consolider, et bien entendu, cette légitimité. Faute de quoi, c'est vrai, après le 20 décembre, les problèmes de l'illégitimité pourraient encore se poser et pourraient aller encore au dialogue. Alors, on va prendre Franck qui devienne. Franck, bonjour.
Oui, bonjour, notre ami Gérard, bon retour au studio. Bonjour à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez la parole. Quel est votre avis?
Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de suivre ce qui se passe au Congo. Mais en analysant de près, je ne cesse de me poser autant de questions. Est-ce que c'est vraiment la RDC, notre pays, qui sortira victorieux le 20 décembre au soir des élections, ou ça serait comment? Parce que je me dis, on organise les élections, mais dont les résultats sont déjà en amont contestés. Et je trouve déjà que ces contestations auxquelles je fais allusion ne proviendraient pas d'abord absolument de l'opposition, mais d'abord des candidats malheureux. Parce que pour 500 sièges, s'il faut voir 24 000 compétiteurs, ça signifie que 23 500 doivent se montrer courtois.
Oui, avez-vous l'idée du nombre de candidatures retenues en 2018 et les candidats députés nationaux étaient au nombre de combien?
C'était autour de 15 000 ou 18 000. Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais c'était un peu au-delà de 15 000. Mais on a eu le même problème de contestation. C'est là où je voulais en venir. Parce que les contestations ne proviendraient pas d'abord absolument de l'opposition, mais même au sein de ceux qui compétissent, les frustrés, les malheureux, il y en a qui ne vont pas facilement accepter et il y en a qui savent déjà qu'ils ne seront pas facilement, qu'ils ne se feront pas facilement élire, mais comme ils le savent déjà qu'ils n'ont pas assez de chances pour passer, ils vont se mettre à crier à la fraude.
Mais Franck, on ne changera pas, on n'invente pas la roue. À l'élection de Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à protester, à contester, mais il est président de la République.
Mais justement, mais c'est là où je me dis, qui gagne? Est-ce que c'est la RDC qui gagne? Est-ce que c'est le peuple qui gagne? Ou ça profite seulement à certains individus? Donc là, vous me rejoignez d'une autre manière. Parce que quand on organise des élections dont les résultats sont d'avance contestés, on doit vraiment se poser autant de questions. Je ne dis pas qu'on doit cesser pour ne plus organiser les élections, mais je crois que nous devons repenser notre manière de faire de la politique. Parce que pour 500 sièges, si on doit avoir 24 000, quand même, ça donne à penser. Pourquoi cet engouement seulement vers le pouvoir législatif? Pourquoi ne pas aussi se mettre à faire autre chose? Il y a aussi d'autres sphères, il y a aussi d'autres circuits. Mais pourquoi seulement à ce niveau? C'est là où je me dis, comme les gens savent que c'est seulement la politique, c'est seulement l'industrie politique qui paye facilement en termes de millions, qui offre autant d'opportunités, c'est comme ça qu'il y a autant d'engouement. Mais tant qu'on ne saura pas vraiment servir en priorité les peuples, tant que les uns et les autres vont d'abord se battre pour leur poche, tant que ça serait d'abord moi, les égaux, c'est tous les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Donc je ne dis pas qu'on doit cesser, mais je crois que nous devons encore revoir notre manière de comprendre la politique. Nous la faisons pourquoi, pour qui et comment.
Voilà, donc si je comprends bien, vous avez un peu de doute quant à l'organisation des élections d'ici au 20 décembre.
Des doutes, il y en a, comme il n'y en a pas, mais vous savez vous-même aussi que ce bureau de la
CENI malgré la publication de la liste provisoire.
Oui. Les élections peuvent avoir lieu, donc jusque-là, on ne peut plus s'opposer. Moi, personnellement, d'abord, je ne peux même pas m'opposer. Je suis analyste, vous le savez. J'analyse ce que je vois là. On va organiser, mais je me demande, on va les organiser pour avoir quel résultat qui amènerait quelle constance dans la vie des Congolais. Est-ce qu'on aura des résultats qui n'amèneraient que des polémiques?
Merci.
On organise des élections pour avoir des contestations en
Merci
amont,
beaucoup, Franck.
On les organise pour avoir quoi exactement?
Merci beaucoup, Franck. Alors, on va prendre François Okundji avant de terminer avec Alain et conclure cette émission. François Okundji, vous êtes avec nous?
Oui, Jean Lungembo, bonjour à tout le monde. Bonjour, j'étais de la radio Capi à travers la République démocratique du Congo.
Vous avez la parole.
Oui, j'ai l'émission Parole aux auditeurs dont j'avais vu la thématique. Je l'avais justement salué. Mais à mon humble avis, je pense que le gouvernement a la responsabilité dans toute chose. Au Congo, aussi avec le pouvoir de Sam Lukonde, il doit prendre la responsabilité de tout ce qui est relatif comme difficulté dans chaque secteur.
Alors, bon, parce qu'on n'a plus assez de temps, François, vous pensez qu'avec la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux, nous allons droit vers les élections?
Oui, on a organisé les élections, les trains déjà en marche, les trains électoraux est déjà presque à l'avant-dernière gare d'atterrissage. L'opposition a qu'à se rattraper à la dernière minute, d'ailleurs.
Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, on va conclure cette émission avec vous, Alain Bolodjoie. Alain Bolodjoie, on a écouté les uns et les autres. J'aimerais bien que vous mettez un peu un accent sur la pression internationale. Est-ce que cette pression a réellement sa place à ce jour?
Bon, je crois que la question électorale, c'est une question de la souveraineté. Voyez-vous? Il revient qu'au seul Congolais le droit de décider en dernier ressort. Mais ce qui est vrai, en tant que sujet du droit international et membre de la communauté internationale, et surtout que c'est nous-mêmes qui avons invité la communauté internationale dans ces débats, elle a aussi droit de regard sur ce que nous faisons. Parce que très souvent, les gens semblent oublier que la MONUSCO est la communauté internationale. Très souvent, c'est la MONUSCO qui nous permet de déployer les équipements. La MONUSCO a pour mission de sécuriser le Congolais. Donc, la MONUSCO doit s'impliquer dans ces processus-là. Vous prenez le pays partenaire dans le cadre multinational, multilatéral, que dans le cadre de la bilatéralité, il y a des pays qui nous accompagnent dans ces processus. Au-delà de tout, nous qui nous sentons en insécurité, nous avons effectivement besoin de ces regards-là. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il revient aux seuls Congolais de décider sur leur avenir. Je soutiens en partie la pression de la communauté internationale, mais que cela ne s'efface pas que sur le délai, mais plutôt sur la qualité. Parce qu'on peut avoir des élections, comme l'a dit notre concitoyen, le train est en marche, mais il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup d'états, il y a beaucoup d'imperfections, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur d'autres plans. Tenez, vous prenez les cartes. On nous a dit que les cartes qui se sont effacées ont droit à les duplicata. Allez poser la question à la CENI. Est-ce que celui qui a un problème de carte arrive au niveau de la CENI? On lui donne un duplicata ou on lui donne une carte originelle? Parce qu'on doit mentionner duplicata. Or, malheureusement, il n'y a pas mention duplicata. C'est-à-dire que l'enrôlement continue. Ils sont en train de continuer l'enrôlement en violation des grands principes. Et donc, nous pensons que nous devons aspirer à de bonnes élections qui mettront fin à la crise de l'illégitimité, parce que nous considérons M. Félix Tshisekedi et toutes les institutions illégitimes. Et quoi de plus normal que nous exigeons de bonnes élections?
Alors, ceux qui pensent que sur la liste provisoire, on n'a pas, ne figurent pas certains partis ou regroupements politiques de l'opposition, par complaisance de la CENI et non par le respect de la loi électorale.
Non, mais ils doivent
Je prends le cas pour ne pas les citer, des cas de Mukwege, par exemple. Certains disent que certains des partenaires de Mukwege ne figurent pas sur la liste par complaisance de la CENI. Est-ce que vous partagez cela?
Bon, on n'a pas assez d'éléments. Dès lors qu'on n'a pas assez d'éléments, on ne peut pas opiner sur ça. Mais ce qui est vrai, la CENI ne fait pas bien son travail. Je vous ai démontré ici que la CENI, même dans le calcul de quotient électoral, la CENI a fauté. Vous prenez en termes de duplicata, la CENI a fauté. Rien ne nous rassure que la publication telle que faite par la CENI est conforme à la loi. Et si les autres là n'ont pas donné des éléments, eh bien la CENI pouvait leur laisser le temps.
Le temps de compléter. Voilà, c'est pourquoi c'est une liste provisoire. Voilà, on ne sera pas allé plus loin avec vous, Alain Bolodjoie, président du parti politique Le BAT, parti de l'opposition. Merci de nous avoir d'avoir accepté notre invitation. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Patrick Kiasonga, Pierre Diassoud-Dassinois, Marcel Ngombo Mbala. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabou Anji. Alors, on se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.